la famille chrétienne. La famille chrétienne qui va nous demander, je pense, approximativement 3 études. J'ai pensé et qu'il était intéressant que vous voyiez d'abord le plan général de l'étude. Alors, ce plan va rester au tableau un certain temps, vous aurez tout loisir de le recopier si vous le désirez. Introduction, nous verrons tout de suite l'émulation, nous verrons ce qu'est la famille païenne et d'où elle tient son mode de vie. Et nous verrons comment servir Dieu dans la famille chrétienne, bien entendu. Il ne s'agit pas de servir Dieu autrement que dans la famille chrétienne. Nous verrons les relations, les rapports de la famille et de l'Église. Nous verrons ensuite alors la question du mariage qui nous demande un assez grand développement, la vie dans le foyer, la réponse à cette question tellement posée qui se pose toujours, peut-on épouser une personne non chrétienne? J'ai mis une personne parce que vous pensez que c'est dans les deux sens, évidemment. À qui l'on sent? À qui l'on sent? Est-ce à Dieu ou à une personne? Nous verrons le cas d'une conversion après mariage. Il arrive que, bien sûr, la conversion intervienne après le mariage. Alors, nous verrons ce cas-là. Et nous verrons aussi les époux, alors tous deux devenus chrétiens ou étant chrétiens, tous deux. Hein. Ensuite, les parents et les enfants, comment la vie doit-elle s'harmoniser entre ces deux catégories qui forment la famille? Et puis, le comportement des enfants, ce qu'il doit être, et la prospérité familiale, et enfin la conclusion. Mais tout cela, je vous tiens à vous le signaler, sera étudié en dehors de tout légalisme. Je tiens bien à le préciser. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on nous lance de partout ce grief. Ah, vous revenez au légalisme, vous faites du légalisme. Or, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. J'ai dit déjà l'autre jour que, comme l'a marqué un homme de Dieu dans un écrit récent, vivre la vie de Christ, c'est beaucoup plus contraignant que de vivre sous la loi de Moïse. Seulement, la contrainte dans l'Église aujourd'hui, dans le temps de l'Église, la contrainte qui nous fait vivre et qui nous presse de vivre la vie de Christ, celle-là, elle est servie par la grâce. Voilà toute la différence. Mes chers amis, vivre aujourd'hui en chrétien, cela représente une contrainte bien supérieure, bien plus forte, à celle que subissait autrefois le peuple d'Israël pour vivre sous la loi de Moïse. Alors, nous ne faisons pas de légalisme, car je sais quel est le danger du légalisme, et le légalisme ne marche pas avec l'Évangile. C'est d'accord, mais l'Évangile nous conduit à une vie avec le Seigneur, une vie à l'exemple du Seigneur. Et ça, personne ne peut nier ça. Alors, nous ne ferons pas de légalisme, vous verrez que c'est par l'Évangile, par le moyen de l'Évangile, que nous verrons toutes ces choses-là. Pourquoi avons-nous pris ce sujet en ce moment? C'est un sujet qui, bien sûr, on ne nous a pas attendu pour le traiter dans l'Église. C'est évident que dans les siècles passés, on l'a traité dès les commencements de l'Église. Mais c'est que aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Au commencement de l'Église, les pères de l'Église l'ont traité, mais ils avaient des raisons pour. En somme, l'Église était naissante, elle avait besoin de montrer ce qu'elle était. Mais maintenant, nous sommes à la fin des temps, à la fin de l'Église, à la fin des temps. La société humaine n'en peut plus, elle ne va pas durer longtemps, soyez persuadés, elle s'écroule. La terre se déchire. Comme a dit le prophète Ésaïe, elle ne va pas durer longtemps.
Et nous sommes dans les temps de la fin où le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et il dévore de tous les côtés. Et les hommes se prêtent à cela. Les hommes en masse sont devenus les auxiliaires du diable pour détruire, pour déchirer. Et alors, le diable s'attaque à la société, il s'attaque à l'Église, il s'attaque à la famille, il s'attaque à l'individu. Il s'attaque de tous les, il attaque de tous les côtés. Et alors, avec une rage particulière, avec tous les moyens de séduction qu'il a, avec le concours des masses médias, et qui développent, qui font retentir, qui portent à la surface de la terre, à toutes les oreilles, à tous les yeux, l'œuvre destructrice du mal et de l'auteur du mal. Nous sommes dans les temps de la fin. Et alors la famille, puisque c'est d'elle que nous allons là parler, la famille, elle, elle est l'objet d'une attaque particulièrement dure. Elle est en voie de destruction. La réforme du code pénal. En Suisse, on croyait que c'était encore là un lieu où l'Évangile pouvait être mieux conservé qu'ailleurs. Hélas, le diable s'est attaqué là. Réforme du code pénal avec toutes sortes de propositions dans les projets qui ont été établis par une commission de sociologues et de juristes. Toutes sortes de choses. La majorité sexuelle, par exemple, à 14 ans, les parents ne pouvant rien dire, rien faire, parce que les parents s'opposent à ce que cette majorité soit effective, c'est eux qui seront punis par le code pénal nouveau. Et puis d'autres choses que je n'ai pas pour dessein de vous dire maintenant, mais le diable, s'est vertu de détruire la famille. Il y a réussi déjà en Suède, au Danemark. En France, cela commence. Et cette destruction de la famille est sans doute une des marques ou un des signes les plus éloquents de ce que la fin est proche. Dieu ne pourra pas laisser faire ces choses et aller ces choses jusqu'à ce que tout soit absolument détruit. Nous allons donc étudier la famille chrétienne. Alors, nous avons l'introduction, ai-je marqué sur le plan, avec pour accent l'émulation. Nous devons d'abord dire ceci. C'est que la sainteté est attachée au pardon. Je parle à des chrétiens. Leur vie chrétienne repose sur le pardon reçu. Et à ce pardon est attachée la sainteté, chers amis, qui oserait dire le contraire? La sainteté fait suite au pardon. Et la sanctification est nécessaire au salut, tout autant que le pardon premier. Et c'est dans le cercle intime de la famille que la vie sanctifiée devra apparaître, dans le cercle intime de la famille. Le comportement de la personne chrétienne au sein de la famille manifestera la réalité de sa foi. La réalité de la foi, moi je ne veux pas la voir dans l'Église. Sommes tous magnifique dans l'Église, en réunion. Mais il faudrait aller, et Dieu, lui, il y va, dans la famille, et voir comment un tel ou une telle se comporte dans sa famille, dans l'amour du calvaire. Nous avons le fondement de nos espérances, ainsi que la source d'une vie renouvelée et sainte. Nous n'avons pas seulement le fondement du pardon, si le Seigneur nous avait accordé le pardon pour que tout revienne comme précédemment, rien ne serait fait. Nous avons la source d'une vie renouvelée et sainte. Il faut parler des relations qui unissent les membres de la famille. Ces relations, bien sûr, inutile d'en parler longuement, elles sont étroites. Il y a entre les membres de la famille un contact continuel entre eux, puisqu'ils partagent, en somme, la même existence. S'ils sont tous chrétiens dans la famille, et je veux dire chrétiens, pas chrétiens de nom, bien sûr, réellement convertis, alors chacun d'eux étendra l'action de sa foi et de son amour au cadre familial. Tous ensemble, ils donneront accès à l'œuvre sanctifiante de l'Esprit sur chaque membre de la famille, sur la famille elle-même. Il s'ensuivra donc une émulation. Une émulation et un développement spirituel de chaque membre de la famille. Un développement spirituel de chacun. La famille sera alors le creuset de l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, comme l'humanité du Christ a été le creuset de toute l'œuvre de la rédemption. La famille sera le creuset de l'œuvre sanctifiante de l'Esprit. Ainsi, la vie nouvelle qui nous est apportée par Jésus-Christ trouvera dans la famille le terrain de son développement pratique et effectif. Voyons maintenant, au numéro 2, la famille païenne. Dieu a institué lui-même la famille. Elle est d'institution divine. Et il l'a instituée lorsque il a dit au départ, il y aurait bien d'autres paroles à rapporter, mais je prends la première. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, 18. L'institution de la famille est donc antérieure à la chute. Antérieure à la chute. Et Dieu réalisa aussitôt ce qu'il venait de dire, puisque la Genèse nous montre qu'il donna effectivement, par les moyens que vous savez, une aide à la femme, un être semblable à lui et tiré de lui, tiré de sa propre substance. Alors l'homme et la femme étaient heureux. C'était le vœu de Dieu qu'ils soient là, unis. Celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Elle est Isha, parce que l'homme s'appelle Ish. Elle est Isha. Mais l'homme et la femme succombèrent à la tentation, et leur union fut alors entraînée dans le malheur. Bien sûr, le fait que l'homme n'était pas seul, qu'ils étaient deux et qu'ils étaient unis, sera la source d'un certain soulagement, car, vous savez, l'homme et la femme passèrent de cet état magnifique d'euphorie spirituelle et de bonheur à un état de lourdeur. L'état de péché tout de suite apparu, et cet état était lourd, c'était un fardeau dès le début. Mais un certain soulagement leur vint de leur union. Et ce soulagement n'est pas seulement affectif, mais ce soulagement leur vint du fait que leur union était le reflet d'une grande promesse le reflet d'une grande union à venir. C'est là que ça se forme. C'est là que le dessein de Dieu apparaît dans toute sa splendeur. L'union de Christ et de l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. L'union de Christ et de l'Église. Malheureusement, la famille allait être secouée par la tempête, soulevée par la rupture avec Dieu. La famille allait être submergée par l'avilissement du péché, et elle allait être comme broyée au sein d'un monde livré sans frein à la chair et à ses convoitises. J'ai très tôt dans ma jeunesse même toujours été étonné d'une chose. C'est que le nœud, on faisait évidemment du classique, il fallait lire toutes sortes de livres au lycée, n'est-ce pas? Et j'étais étonné de ce que le nœud de la plupart des pièces de théâtre et des romans se situait dans la profanation du sanctuaire domestique. Les auteurs de pièces de théâtre ou de romans aimaient et aiment toujours de plus en plus jouer avec toutes les situations où l'égoïsme, l'orgueil, l'adultère, l'audace ont les premiers rôles. À côté de la corruption, des tempêtes et des drames que provoque l'égoïsme, apparaissent la frivolité, la mondanité, l'avidité des plaisirs. On peut appliquer à la famille cette parole de l'Écriture. Jésus est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Et actuellement, le diable qui connaît cette parole veut que la famille soit une perte notoire, une perte totale. C'est pour ça qu'il s'acharne sur elle. Le danger pour la famille chrétienne sera de se rouvrir à l'influence païenne qui y a introduit l'élément du péché. Le monde païen, l'ennemi en est le zélé présentateur. Dans la famille du monde, l'ennemi prend des modèles qu'il part, qu'il dort, et puis il présente ça aux chrétiens de l'Église. Les chrétiens ne sont pas, hélas, sans être sensibles à une telle présentation. Et c'est pourquoi il est urgent que nous revoyions ces choses sans faiblesse. Bien sûr, la force de l'exemple est là, et je vous dis, les masses médias sont là qui amplifient l'œuvre du diable. Le levain du paganisme, ce levain du paganisme si habilement présenté par l'ennemi, dissimule le vieux levain, c'est-à-dire le levain de malice et le levain de méchanceté, comme dit l'apôtre Paul. La famille chrétienne devra donc réagir. Réagir avec sa foi et sa persévérance pour se maintenir dans la vie de sainteté. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, disait Josué, et nous n'avons pas d'autre but que de glorifier Dieu. La vocation du chrétien est de glorifier Dieu en le servant. La vocation de la famille, celle de l'Église, sont les mêmes. Glorifier Dieu et servir Dieu. Or, à la base de cette vocation, qui est celle de l'Église et de la famille ensemble, et celle de l'individu aussi, l'Évangile met un principe à la base de cette vocation. Un principe, le principe d'obéissance, d'humilité et d'amour. Nous ne sommes pas dans le légalisme. Le principe d'obéissance, d'humilité et d'amour. Il y met un moyen, je l'ai dit tout à l'heure, un grand moyen, la grâce de Dieu, qui est opérante, qui est puissante. Le chrétien a cessé de vivre pour lui. Il vit pour Dieu, ce qui veut dire qu'il plie sa volonté devant la volonté divine. Il conjugue, il offre sa volonté pour accomplir celle de Dieu. Voilà la volonté de l'homme chrétien, de l'homme saisi par la grâce, et la volonté de Dieu qui sont là, qui se rencontrent, et toutes deux partent dans la même œuvre. Dans la famille, les membres convertis peuvent faire cela ensemble. On ne peut pas servir Dieu et le glorifier sans obéir à sa volonté dans l'humilité et dans l'amour. J'ai connu des familles profondément chrétiennes. Ah, chers amis, quand on entre dans de telles familles, quel grand mystère, quel joyeux mystère, quel magnifique mystère de simplicité, de calme, de paix. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Comment servir Dieu dans la famille, le troisième point de notre plan? Eh bien, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, et non pas moi et ma maison, nous nous servirons. Voilà, n'est-ce pas, deux modes d'action qui se repoussent l'un l'autre, comme le plus et le moins. Et comme deux électricités, si vous voulez, se repoussent. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faudra donc mettre le Seigneur à la première place, et non pas l'intérêt ou la recherche du bonheur avant tout. Ce n'est pas le bonheur que nous avons à chercher, c'est le royaume de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas dit chercher le bonheur, il nous a dit chercher au-dessus de tout le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il ne s'agit pas des choses matérielles seulement, le bonheur viendra. Oui, mais en conséquence de ce que vous rechercherez le royaume. Et bien sûr, il est facile dans la famille, tout en étant croyant, de rechercher constamment le bonheur de vivre dans le foyer. Le foyer chrétien, déjà, présente une douceur qui est tout à fait particulière. Et on s'entend, on s'aime, c'est bien, on peut évidemment céder à cette pente de la recherche du bonheur de vivre, et l'on peut alors s'enfermer dans le cercle des affections. Il faut d'abord savoir sacrifier les affections. Ah, nous entrons sur un terrain délicat. Voilà une chose peut-être dure. Il faut savoir sacrifier les affections, je vais vous le montrer. Non pas les détruire, non pas les renier, mais les subordonner à l'amour que l'on doit à Dieu. Jésus a dit, prenons Luc, chapitre 14 et verset 26, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait, pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et ce mot, ce verbe haïr, on a dit en traduction qui certainement donne une note là qui est excessive et qui doit cette traduction ne doit pas être tout à fait exacte. Si elle est exacte, elle est exacte. Il s'agit de cela. C'est bien ce qu'a dit le Seigneur. Hein. Mais nous avons eu l'occasion d'étudier particulièrement cet enseignement du Seigneur. Nous avons vu ce qu'il signifiait. Mais disons maintenant que cette parole sévère, terrible même, terrible, haïr son père, sa mère, les siens, terrible, elle utilise tout à fait à dessein un paradoxe. Un paradoxe pour bien enfoncer dans nos consciences la grande vérité qu'elle exprime et que nous allons voir. Le Seigneur a pris un paradoxe. Alors qu'ailleurs le Seigneur dira bien, rappellera, tu honoreras ton père et ta mère. Il a pris un paradoxe. Et quelle est cette vérité qu'exprime cette parole du Seigneur ? Eh bien, voici. Pour servir Dieu, il faut faire prédominer l'amour envers Dieu, sur tout autre amour ou sur toute autre affection. L'amour pour Dieu doit être élevé, et de combien ? Au-dessus de nos affections les plus légitimes, au point que celles-ci ne pourront jamais, jamais, entendez-vous bien, ne pourront jamais limiter ou retenir l'amour envers Dieu. Ce qu'elles feraient, à n'en pas douter, si nous leur donnions même égalité avec l'amour avec Dieu, ou si nous leur donnions la première place. Les affections entre parents, membres d'une même famille, c'est bien Dieu qui les a données en établissant la famille naturellement. C'est Dieu qui les a données, ces affections. Marie, aimez vos femmes. Ah, dira l'apôtre Paul, vous voyez bien, honore ton père et ta mère. Mais les affections légitimes ont été faussées par le péché et elles ont été paganisées. Voilà pourquoi le Seigneur emploie ce mot fort, ce paradoxe, s'il ne hait son père et sa mère, s'il ne brise ces affections paganisées qui font obstacle à l'amour de Dieu. Si ce carcan n'est pas ouvert, brisé, comment ? Les âmes pourront-elles aimer Dieu ? Non, il n'y a plus de place. Vous voyez la raison de ce terme, haïr. Haïr, face à ces affections paganisées. Et vous ne me direz pas qu'elles ne sont pas paganisées. Elles le sont. Et quelquefois, elles le restent encore trop dans la famille chrétienne. Sans ôter à nos affections de quoi que ce soit, il importe qu'elle ne puisse jamais entraver l'amour pour Dieu et ses manifestations nécessaires. Il faut être prêt à sacrifier ses affections à une seule des volontés de Dieu et ne jamais en faire le prétexte pour sacrifier le service de Dieu et se dérober à l'obéissance à sa volonté. Et alors, voyons la situation. Servirait-on réellement Dieu en lui donnant la seconde place pour accorder la première à notre famille ? Ah, on voit de ces situations-là. Alors, à ces situations-là, je n'hésite pas à envoyer le paradoxe du Seigneur. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Tu ne peux pas être le disciple si tu es, toi, tributaire de ces affections paganisées, ces affections qui sont devenues l'effet d'une sensibilité purement humaine, souvent même empreinte d'un égoïsme caché. On ne peut pas servir Dieu en donnant la seconde place à l'amour qu'on lui doit. Ce serait donner la première place aux affections, ce serait verser dans l'idolâtrie. On peut en effet très bien idolâtrer ses proches en leur sacrifiant le service et la gloire due à Dieu. Si nous donnions à nos enfants ou à nos parents le meilleur de notre dévouement, ou comme on dit quelquefois, une expression qui est un peu vague, le meilleur de nous-mêmes, je crois qu'il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de très bon dans nous-mêmes, n'est-ce pas? Enfin, si nous leur donnions le meilleur de notre dévouement, je dirais, nous nous donnerions à eux pour satisfaire leurs besoins et leurs exigences, qui quelquefois deviendront vite excessives, et nous jetterions à Dieu les restes des sentiments de notre cœur, les débris d'un cœur idolâtre. Voilà ce que nous donnerions à Dieu. Et c'est faussement que nous nous imaginerions faire le bonheur de nos proches en sacrifiant à leur profit l'amour envers Dieu. Répétons-le, nous serions idolâtres et nous priverions la famille de toute bénédiction et nous attirerions sur elle la réprobation de Dieu. Pourquoi y a-t-il des familles chrétiennes qui souffrent et qui sont dans la difficulté? Parce que vous vivez liés les uns aux autres par des affections devenues païennes et idolâtres, ou restées païennes et idolâtres. C'est précisément l'esprit de sacrifice qui conserve le bonheur et la vie de famille, en attirant sur elle les bénédictions d'en haut. Et l'on peut alors penser à cette parole du Seigneur, « Celui qui perd sa vie la retrouvera en vie éternelle. » Réfléchissons bien, et supposons qu'au sein de la famille, nous mettions au second rang l'obéissance à Dieu selon le véritable amour, et que nous donnions la première place aux soins que nous nous accordons les uns les autres, ainsi qu'à de multiples manifestations d'affection et de dévouement entre soi. Supposez cela, que nous mettions la première place, donnions la première place à ces soins, à ce genre de manifestations affectives. Pensez à ce que serait l'atmosphère familiale alors. Il y aurait certes des joies, des rires, des embrassades, des élans. Cependant, l'on sentirait dans cette famille comme un lourd climat pesant sur elle. Et l'on éprouverait, entre-temps, une lassitude, un mécontentement inexpliqué, une aigreur même au fond des cœurs, et l'on se questionnerait d'où cela vient-il? On ne serait pas heureux de façon réelle et égale. Et il faudrait toujours, toujours, pour essayer de revenir à quelques rayons de lumière, à quelques soulagements, il faudrait toujours recourir à des élans passagers d'affection démonstrative. Et c'est ainsi que l'on se tromperait. Entre soi, l'on se tromperait. Des élans, des embrassades, des cadeaux, toutes sortes de choses. Mais ça laisserait peser le fardeau sur la famille. Il y aurait se répandant sur les cœurs comme un brouillard, terne et froid, et l'existence serait en réalité vide et décolorée. Imaginez maintenant, en contrepartie, que les membres de la famille aient la sagesse de s'en rapporter à la parole du Seigneur, et qu'ils recherchent ensemble, avec persévérance, toutes les occasions de plaire au Seigneur, s'efforçant de ne manquer aucune occasion d'obéir au Seigneur. Alors, sûrement, la bénédiction de Dieu s'étendra sur une telle famille comme l'azur d'un ciel ensoleillé, consentant à subordonner leurs affections mutuelles à l'amour divin, renonçant ensemble au monde et à ses convoitises, les membres de cette famille se sentiront pénétrés d'un bonheur profond et durable. Ensemble, ils perdront leur vie pour la confier au Seigneur, et cette vie perdue se révélera être la plus riche, la plus heureuse, la plus embaumée d'amour, la plus sublime avec ses perspectives éternelles. C'est alors qu'entre les membres de cette famille, cette seconde famille que nous venons de voir, d'imaginer, c'est alors qu'entre ces membres, tous les sentiments qui les unissent rendront une profondeur précédemment inconnue. Et que seront à côté de cette profondeur des sentiments, que seront les embrassades, les élans de tout à l'heure? La Bible nous offre un exemple de famille chrétienne. C'est la famille de Béthanie. La famille de Béthanie, celle de Lazare. Il n'y avait là que, en somme, un homme et ses deux sœurs. Lazare, Marthe et Marie. Mais dans cette famille, on y respire l'amour. On y trouve la paix. Ah, c'est que là, dans cette famille, un hôte venait souvent s'asseoir là, en son milieu, sous son toit. Le Seigneur, avec ses paroles, avec son amour, avec la puissance de son esprit, était là. Si les préoccupations humaines prenaient le pas sur la vie de l'esprit, le Seigneur remettait les choses en leur bon ordre. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ne sais-tu pas qu'une seule chose est nécessaire? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Le Seigneur remettait toutes choses à leur place. Et qui pouvait dire quelque chose? Beaucoup de maisons chrétiennes ont, dans l'entrée ou dans quelques pièces, cet écriteau qui, un temps, il paraît que ça se vend moins maintenant, mais fut un temps, ça se vendait beaucoup. Cet écriteau, l'on disait que dans cette maison, il y avait un hôte invisible qui écoutait toutes les conversations. Seulement, l'écriteau, c'était une chose. La réalité en était une autre. Était-il vraiment reçu, cet hôte invisible? N'était-il pas plutôt à la porte, frappant à la porte et attendant qu'on lui ouvre, comme à la Odyssée? Oui, le Seigneur est vraiment l'hôte. Lorsque l'esprit règne dans le foyer, lorsque les cœurs ne se départissent jamais de l'amour divin, s'il est là, S'il est présent en esprit, à coup sûr, il sanctifie la maison et il en fait un sanctuaire, mes amis. Ah, j'aimerais bien voir cette pancarte. Oui, et que, à chaque instant, on leva les yeux sur elle, avec son cœur. Partout où le Seigneur est reçu, il est la pierre d'angle sur laquelle s'édifie la vie de chacun, ou la prospérité de l'Église, ou la paix glorieuse de la famille chrétienne. Ne laissons pas l'hôte merveilleux sur le seuil de la maison. Ouvrons-lui la porte du foyer, qu'il s'assoie en ce foyer, qu'il y soit écouté, et qu'il nous apprenne lui-même à servir Dieu dans la famille et dans l'Église. Nous lirons au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Nous arrivons au quatrième point. Chapitre 5, nous lirons simplement les versets 22 à 33. Chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Lisons avec attention. 22. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. L'apôtre Paul a-t-il écrit ces lignes sous l'inspiration du Saint-Esprit pour mettre un peu de baume et un peu d'ordre dans le foyer? On a mis une suscription à notre passage dans nos versions, les devoirs domestiques. Ce n'est pas du tout ce que l'apôtre Paul avait en vue. Il avait en vue de mettre devant nous cet extraordinaire parallèle, j'en ai parlé tout à l'heure, entre l'union de l'homme et la femme et l'union de Christ et de l'Église. L'union de l'homme et la femme est porteuse de la promesse d'une grande union. Elle est porteuse prophétiquement du grand but de Dieu, Christ et l'Église. Et Paul dira en effet, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari, que les maris aiment leur femme. Tout cela, pourquoi? Parce que Christ aime son Église, et qu'il faut que les choses soient en rapport. Ce passage des Éphésiens est extraordinaire. Il est rempli d'une haute spiritualité qui va du ciel à la terre. Des desseins magnifiques de Dieu, les desseins magnifiques de Dieu s'y font jour, et ces desseins vont de Christ à l'Église, du sommet, du fait, de leur fête, jusqu'à l'humble demeure de la famille. Il n'y a pas de rupture, veut nous dire le Seigneur déjà, entre l'existence de la famille chrétienne sur la terre et les resplendissantes destinées éternelles préparés par le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'y a pas de rupture. L'on va de l'un à l'autre. L'on va de cette union dans le foyer à l'union de Christ à l'Église. On y va. On y va, je dirais, par là. Comme il y a dans le foyer l'époux et l'épouse, il y a également l'époux divin et l'épouse qui se préparent aux noces grandioses des demeures célestes, où ils auront appris à s'aimer, s'ils l'ont appris. Ils auront appris à s'aimer dans le foyer. L'homme et la femme figurent donc la plus merveilleuse des hautes réalités dans leur vie commune. L'union de Christ et de l'Église est là le grand mystère, le grand but vers lequel Dieu fait marcher ceux qui lui appartiennent. Les hommes et les femmes rachetés ont donc pour mission de servir Dieu dans toutes les circonstances de leur existence. Ils ont à réaliser par la foi toute la volonté divine, c'est-à-dire vivre pour le Seigneur, vivre pour le glorifier et non plus vivre pour soi-même. Rappelons-nous ce que dit Paul, Romains 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et puis 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On parle quelquefois, volontiers, de l'esprit de famille. Et on prête à cet esprit de famille de la vertu. Cependant, que nous ferions bien de nous méfier des excès de cet esprit de famille, je dirais même se méfier de ce qu'on appelle couramment l'esprit de famille. Car cet esprit peut n'être qu'un égoïsme collectif, ou l'égoïsme collectif, et qui est la condensation des égoïsmes individuels. La famille chrétienne prendra garde de ne pas tomber dans ce faux esprit de famille qui est une fausse satisfaction et qui est un leurre. Car j'ai vu, chers amis, le Seigneur m'a donné l'occasion de voir ces choses et de les comprendre. Il me les a expliquées. Pas pour que j'en fasse quelque chose à mon seul usage, mais pour que je puisse en parler. Eh bien, il faut faire attention à cette fausse satisfaction. Elle est un leurre, disions-nous, car il y a en effet des familles, des foyers, où règne cet esprit de famille. Et alors, on prend ça pour l'authentique félicité céleste. Alors que le Seigneur n'est pas honoré, ou s'il est quelque peu honoré, il l'est secondairement, après l'esprit de famille, après que l'esprit de famille a agi. La famille chrétienne doit au contraire s'ouvrir au service du Seigneur, selon les directions de l'amour et de la miséricorde. Et la vie de famille va d'abord s'élever à la hauteur d'un culte continuel. dirait c'est trop. Si vous dites c'est trop, ceux qui diront c'est trop, c'est que leur cœur n'a qu'un petit goût, simplement, de la volonté du Seigneur et de ses demandes. Mais elle n'a pas compris véritablement tout ce qu'était, tout ce qui faisait le désir de Dieu. Il y a un parallèle saisissant entre l'Église et la famille, dont les membres sont unis en tout premier lieu par des sentiments naturels, eux-mêmes dominés par l'amour fraternel. Des frères chrétiens selon la chair, des frères qui sont frères selon la chair et qui sont aussi chrétiens, sont également frères selon l'esprit, et cela avant toute autre chose. Les liens de famille passent en dessous du lien de l'esprit qui lui domine toute chose. Si bien que la famille chrétienne est une cellule de l'Église. On nous parle beaucoup de cellules aujourd'hui. Je veux bien qu'il y ait des cellules qui se constituent d'une douzaine de personnes, peut-être, mais la cellule de base, c'est déjà la famille. Et s'il n'y a pas ces cellules-là, c'est inutile d'en faire d'autres. Chaque membre de la famille est appelé à servir Dieu à la place qui lui revient, selon ses dons et selon son appel. Comme l'Église, la famille présente le double caractère de la diversité dans ses membres, mais de l'unité de ses membres par le lien de l'Esprit, comme dans l'Église. Nous allons arrêter là ce matin notre étude. Que le Seigneur soit béni et pensons à ces choses afin de lui plaire. Amen.